Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une question que je pense tout le monde s'est déjà posée en envoyant un CV. Au-delà des diplômes, des compétences qu'on liste noir sur blanc, qu'est-ce qui fait vraiment pencher la balance pour un recruteur?
C'est la question à un million.
Exactement. Et pour y répondre, on a mis la main sur une étude passionnante de Bruxelles Formation, qui est allée directement sur le terrain. Ils ont interrogé des recruteurs du secteur tertiaire pour comprendre leurs vraies attentes.
Oui, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette étude, elle nous sort un peu des grandes théories, vous savez, sur le futur du travail, l'IA...
Oui, les grands concepts.
C'est ça. Là, on plonge dans le concret, dans la réalité du terrain. On parle des agences d'intérim, des entretiens pour des postes dans la vente, la logistique, l'horeca. Et on découvre une mécanique très, très humaine et parfois surprenante, où les compétences sont, comment dire, jugées.
Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cette mécanique. On va explorer ce que ces recruteurs cherchent, ce qui les rassure, ce qui les alerte, et comment, au final, une notion aussi subjective que la confiance devient peut-être la compétence la plus précieuse de toutes.
C'est parti.
Bon, alors le point de départ du rapport, c'est un constat. C'est presque comique.
Si ce n'était pas si répandu, oui.
Voilà, le décalage total entre l'offre d'emploi idéale et la réalité du marché. Les recruteurs parlent tous du fameux « mouton à cinq pattes ».
Ah, le classique.
Le candidat parfait. Il serait bilingue, français-néerlandais, 10 ans d'expérience stable, une maîtrise parfaite de tous les logiciels, et bien sûr, il accepterait un salaire de débutant.
Et le rapport cite une anecdote là-dessus, d'un recruteur, à un certain Raoul, qui résume tout. Il raconte, je cite, « Une compagnie m'a demandé un chargeur de camion qui devait parler français et néerlandais, savoir conduire un chariot élevateur, faire l'administratif et la vente. »
Ah oui, tout ça pour un seul poste.
Et sa réponse est géniale. Il dit « Je lui ai demandé combien de personnes il avait besoin, car il fallait 5 personnes pour faire tout ça. C'est une caricature, mais à peine. »
C'est fou. Du coup, le premier travail du recruteur, ce n'est même pas de trouver un candidat. C'est de négocier avec son client pour revoir les exigences à la baisse.
Tu te montres bien qu'il y a une logique économique très forte.
C'est une question de coût, j'imagine.
Bien sûr. Ce sont souvent des PME qui essayent de concentrer un maximum de tâches sur un seul poste. Elles payent un service à une agence d'intérim, donc elles estiment qu'elles ont le droit d'exiger la perle rare. Ça crée une tension.
Les agences sont prises en étau, en fait.
C'est exactement ça. Entre les attentes irréalistes des clients et les profils réellement disponibles sur le marché.
Mais on peut se demander si, à force de chercher ce profil parfait, les entreprises ne prennent pas le risque de ne trouver personne et de laisser un poste vacant pendant des mois.
C'est tout le paradoxe. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Hein. Puisque le profil parfait n'existe pas, comment le recruteur fait-il son choix? Comment il fait le pont entre cet idéal et la réalité? Et c'est là que le rapport nous emmène au cœur du réacteur, le jugement humain.
Ce qui m'a vraiment frappé dans cette partie, c'est la perception du CV. Ce n'est pas juste une liste de faits, c'est une première poignée de main. L'étude montre que c'est avant tout un gage de confiance.
Absolument.
Et ce qu'il regarde en premier, c'est l'expérience récente et la stabilité. Les fameux « trous dans le CV » sont tout de suite vus comme ils appellent ça des « red flags ».
Des drapeaux rouges, de vrais signaux d'alerte qui demandent une justification solide. Une formation, un projet, un voyage.
Il faut pouvoir l'expliquer.
Oui. Et pour analyser ce processus, les auteurs du rapport s'appuient sur une grille de lecture très éclairante, celle des « grammaires de la confiance » du sociologue Albert Augien. L'idée, c'est que l'évaluation n'est jamais purement objective. C'est une construction sociale qui suit plusieurs logiques. La première, c'est celle du gage.
Le gage, c'est le CV parfait, en somme. Le parcours idéal sans accroc.
C'est exactement ça. Un parcours linéaire, une expérience solide dans le secteur, une présentation impeccable, pas de faute d'orthographe, ce sont des garanties. Le candidat fournit des preuves tangibles de sa fiabilité. Là, le recruteur ne prend quasiment aucun risque.
D'accord, mais on le sait, ces parcours linéaires, c'est de plus en plus rare. Alors que se passe-t-il quand ces gages manquent?
On bascule dans la deuxième logique, celle du pari. Imaginez un CV intéressant, mais avec quelques fautes ou un petit trou mal expliqué. Le recruteur sent qu'il y a un potentiel, mais il n'a pas toutes les garanties.
Donc il prend un risque.
Il décide de parier sur le candidat en le recevant en entretien. L'issue est incertaine. Ça peut être une excellente surprise ou une perte de temps.
Attendez, cette idée de pari, c'est à la fois fascinant et un peu inquiétant. Ça veut dire que le destin d'un candidat peut dépendre de l'humeur d'un recruteur ce jour-là.
C'est très subjectif, oui. Et le rapport l'explore complètement. Il montre que ce pari est aussi un risque pour la réputation de l'agence. Ce qui nous amène à la troisième logique, encore plus risquée, le défi.
Le défi.
Là, on parle de présenter à un client un candidat qui n'a pas l'expérience ou qui ne maîtrise pas bien la langue. C'est une, je cite, « mise en danger délibérée ». Le recruteur met sa propre crédibilité en jeu. Et enfin, il y a la dernière logique, la plus rare, le sacrifice. C'est un acte de foi. Le recruteur décide de donner sa chance à quelqu'un qui n'a presque aucun gage en espérant une révélation sur le terrain.
C'est vertigineux de voir à quel point tout ça est humain, subjectif. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas au CV. En entretien, le rapport mentionne qu'ils utilisent des techniques comme la méthode STAR.
Oui, la méthode STAR, c'est un bon exemple. On demande au candidat de décrire une situation, la tâche qu'il devait accomplir, l'action qu'il a menée et le résultat obtenu.
C'est une façon de le forcer à donner du concret.
Tout à fait. Pour avoir des preuves factuelles de ses compétences plutôt que des affirmations vagues comme « je suis proactif ».
Et il y a cette question toute simple qu'il cite « expliquez-moi concrètement ce que vous savez faire avec Excel ». Apparemment, ça permet de voir en 30 secondes si la personne a une vraie pratique ou si elle a juste mis le mot sur son CV.
C'est un très bon test.
Mais au final, le mot qui revient sans cesse dans leur bouche, c'est le « feeling », l'intuition.
Et c'est le cœur du problème et de la solution. Ce feeling est essentiel, c'est ce qui permet de faire un pari réussi. Mais c'est aussi la part la plus incontrôlable du processus. Et pour le recruteur aussi, c'est un poids. Il sait qu'il peut se tromper.
D'accord. Donc, si cette confiance intangible est la clé, sur quoi elle se base concrètement au quotidien? Le rapport a justement essayé de lister ces fameuses compétences minimales.
Alors, commençons par la base de la base. Les compétences linguistiques. Ce qui ressort, c'est que la maîtrise orale est la porte d'entrée absolue. Le strict minimum, c'est un niveau B1, dans une des langues nationales, français ou néerlandais.
Juste pour comprendre les consignes, en fait.
Pour comprendre les consignes de travail et de sécurité, oui. Le rapport donne des exemples très clairs. B1 pour un plongeur en cuisine, B2 pour un aide-soignant.
Un C1 à l'oral pour une réceptionniste, ce qui est logique. L'écrit, lui, semble presque secondaire au début.
Il le devient beaucoup moins dès qu'on parle d'évolution. Pour passer chef d'équipe, il faut pouvoir rédiger des emails, des plannings. Ensuite, pour la numératie, on ne parle pas de maths complexes.
Non, c'est la règle de 3, les calculs de base.
C'est ça. Essentiel en cuisine pour adapter une recette ou en logistique pour répartir une charge.
Et pour le numérique, qui est sur tous les CV.
Là, il y a une surprise. Pour beaucoup de ces métiers, la compétence clé, ce n'est pas la maîtrise de l'ordinateur ou de la suite Office. Ça, c'est pour les postes administratifs.
C'est plutôt le smartphone ou la tablette.
Exactement. Utiliser une application de livraison, scanner des produits. L'étude montre que ce qu'ils appellent l'électronisme, la difficulté à utiliser ces outils de base, est un frein majeur.
Justement, en parlant de numérique, on entend partout que l'IA va tout bouleverser. Est-ce que ces compétences de base, comme utiliser une tablette, ne risquent pas d'être obsolètes très vite?
Le rapport aborde la question et la réponse est nuancée. Pour l'instant, dans ces secteurs, l'IA est très peu présente. Mais les recruteurs anticipent son arrivée. Et ce qu'ils disent est fascinant.
Qu'est-ce qu'ils disent?
On n'a pas fait d'erreur pour gérer l'imprévu. Ce petit plus de discernement humain deviendra crucial.
Donc, paradoxalement, plus il y aura de technologie, plus les compétences purement humaines deviendront importantes.
C'est exactement la conclusion. La communication, la gestion du stress, l'auto-organisation, tout ce qui est difficilement automatisable. Et ça nous amène directement au dernier pilier, et sans doute le plus important, le savoir-être.
Le fameux savoir-être.
Le rapport fait une distinction très nette entre les candidats jugés employables et ceux qui ne le sont pas. Et ça n'a souvent rien à voir avec les compétences techniques.
Pas du tout. Un candidat employable, c'est quelqu'un qui sait se vendre, qui a une attitude de travail, ponctuelle, présentation correcte, motivée.
Et à l'inverse, la catégorie non employable. Les exemples sont assez frappants, mais ils sont réels. Ce sont des cas qui brisent instantanément la confiance. On parle de candidats mous, passifs en entretien.
Il cite l'exemple d'une personne qui se présente torse nu à un entretien, en visioconférence.
Ah oui, quand même.
Ou le cas rédhibitoire par excellence. Un candidat qui ne se présente pas le premier jour de travail, sans prévenir.
Et ça, c'est la fin de l'histoire. C'est un red flag absolu. Ça signale un manque de fiabilité qui rend tout pari ou défi impossible. La confiance est rompue avant même d'avoir pu se construire.
C'est dingue. On parle de formation, d'IA, et au final, ce qui peut tout faire capoter, c'est de ne pas savoir se comporter lors d'un simple appel vidéo. La barre est donc bien plus comportementale que technique à ce niveau.
Elle l'est entièrement.
D'accord. Donc, on a ce tableau des compétences pour entrer sur le marché. Mais une fois qu'on a le poste, souvent un contrat court, que se passe-t-il? Pour évoluer, qu'est-ce que le rapport nous dit?
C'est un point crucial. Pour ces personnes, les contrats sont souvent précaires, quelques semaines, parfois quelques jours. L'évolution de carrière, pour passer de magasinier à chef d'équipe par exemple, est presque toujours conditionnée par un vrai saut qualitatif.
C'est là que les langues et l'écrit deviennent importants.
Exactement. Il faut en général la maîtrise des deux langues nationales et des compétences rédactionnelles et numériques plus solides. Il y a un vrai palier à franchir.
Et ça nous ramène à notre question centrale. Si la formation technique est nécessaire, mais pas suffisante, et que tout repose sur cette confiance, ce savoir-être, comment un organisme comme Bruxelles Formation peut agir? On ne donne pas un diplôme de personne de confiance.
C'est tout l'enjeu. La formation ne peut plus se contenter de transmettre un savoir-faire. Elle doit intégrer la préparation à ce jeu social qu'est le recrutement. Aider à rédiger un CV qui soit un gage de confiance, préparer aux entretiens.
Faire des simulations.
Des simulations pour travailler sa posture, sa communication. Il s'agit d'apprendre à construire et à projeter cette confiance.
En conclusion, ce qui se dégage vraiment de cette analyse, c'est que le marché du travail, surtout à ce niveau, c'est beaucoup moins une place de marché où on échange des compétences contre un salaire
qu'une arène sociale.
Oui, une arène sociale où la confiance se négocie à chaque instant.
C'est le mot juste. Les recruteurs ne cherchent pas seulement quelqu'un qui peut faire le travail. Ils cherchent quelqu'un en qui ils croient qu'il fera le travail. Eh bien, c'est cette dimension de croyance, de pari sur la personne qui est fondamentale et qui dépasse de loin la simple lecture d'un CV.
Et cela nous laisse avec une question de fond. Le rapport se termine sur des pistes d'action. Mieux préparer les CV, simuler des entretiens. Mais si la compétence la plus cruciale est cette confiance intangible, et si le système valorise des gages comme un parcours linéaire sans trou, le véritable défi n'est-il pas ailleurs? La question n'est peut-être pas seulement comment enseigner la confiance aux candidats.
Je vois où vous voulez en venir.
Mais plutôt, comment construire un système de recrutement qui sait lui-même faire confiance à des parcours plus atypiques et moins parfaits? C'est peut-être là que se situe la prochaine grande étape.